Chapitre 4. Le chapitre précédent se termine par cette déclaration solennelle du Seigneur que les liens qu'il allait maintenant reconnaître étaient ceux qui avaient une base spirituelle dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Cette déclaration a très certainement fait naître dans l'esprit des disciples des questions sur la manière dont ils pourraient savoir quelle est la volonté de Dieu. En commençant ce chapitre, nous trouvons la réponse. C'est par sa parole qu'il nous fait connaître ce qu'il est et ce qu'il a fait pour nous. C'est de ces choses que découle sa volonté pour nous. Il y a encore de grandes foules rassemblées auprès de lui, si bien qu'il les enseigne en étant sur une barque. Mais c'est à ce moment qu'il commence à parler par des paraboles. La raison nous en est donnée aux versets 11 et 12. Les chefs du peuple l'ont déjà rejeté, comme l'a bien montré le chapitre précédent. Les gens eux-mêmes sont dans l'ensemble indifférents quand ils ne sont pas attirés par la passion du sensationnel, la curiosité, les pains et les poissons. Plus tard, ils changeront de bord. Ils soutiendront les chefs dans leur hostilité meurtrière. Le Seigneur sait cela. Aussi commence-t-il à dispenser son enseignement sous une forme qui le réserve à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Il parle au verset 11 de ceux qui sont dehors. Cela nous montre que déjà une rupture se manifestait et qu'on pouvait distinguer ceux qui étaient dedans de ceux qui étaient dehors. Ceux qui étaient dedans pouvaient voir et entendre, percevoir et comprendre, et ainsi le mystère ou le secret du royaume de Dieu devenait clair pour eux. Les autres étaient aveugles et sourds, et le chemin de la conversion et du pardon se fermait pour eux. Si l'on ne veut pas entendre, vient un moment où on ne le peut pas. Les gens voulaient un Messie qui leur apporterait prospérité et gloire dans ce monde. Ils n'avaient que faire, comme les événements l'ont montré, d'un Messie qui leur apportait le royaume de Dieu sous la forme mystérieuse de la conversion et du pardon des péchés. Aujourd'hui, nous avons le royaume de Dieu précisément sous cette forme mystérieuse, et nous y entrons par la conversion et le pardon, car c'est ainsi que l'autorité de Dieu s'établit dans notre cœur. Nous attendons toujours le royaume dans sa manifestation en gloire et en puissance. La première parabole de ce chapitre est celle du semeur, de la semence et de ce qui est produit. Ayant dit cette parabole, Jésus conclut par ces mots solennels: qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Qu'on ait des oreilles pour entendre ou qu'on n'en ait pas, montrerait immédiatement si un homme appartenait à ceux qui sont dedans ou à ceux qui sont dehors. La grande majorité des auditeurs du Seigneur ont évidemment pensé que c'était une jolie histoire agréable à entendre, mais ils ne vont pas plus loin, montrant qu'ils sont dehors. Pour d'autres, comme pour les disciples, cela ne suffit pas. Ils veulent arriver au sens profond de la parabole et s'informent plus avant. Ils appartiennent à ceux qui sont dedans. Ce que dit le Seigneur au verset 13 montre qu'il faut comprendre cette parabole du semeur, sinon les autres paraboles ne nous seront pas intelligibles. Elle détient la clé qui ouvre toutes les autres. Le Seigneur Jésus, quand il est venu, a tout d'abord soumis Israël à une épreuve capitale. Allait-on recevoir le Fils bien-aimé et rendre à Dieu le fruit qui était dû sous le régime de la loi? Il devient évident que non. Eh bien, un second ordre de choses doit alors commencer. Au lieu d'exiger quoi que ce soit de leur part, c'est le Seigneur qui sèmera la parole. Celle-ci, autant convenable, dans certains cas du moins, produira le fruit désiré. C'est ce que montre cette parabole. Et si nous ne saisissons pas ce qu'elle signifie, nous ne comprendrons pas ce que le Seigneur a à nous dire par la suite. Le Seigneur lui-même est le semeur, sans aucun doute, et la parole est le témoignage divin qu'il répand, car le si grand salut qui a commencé par être annoncé par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'avaient entendu. Hébreux 2, verset 3. Dans l'Évangile selon Jean, nous découvrons que Jésus est la parole. Ici, il sème la parole. Qui pouvait la semer comme lui, qui était la parole? Mais même quand c'est lui qui sème la parole, tous les grains qu'il sème ne fructifient pas. Dans un cas sur quatre seulement, du fruit est produit. Il est également certain que la parabole s'applique dans ses principes à tous ceux qui sont sortis après le Maître pour semer la parole, comme envoyés par lui, depuis lors jusqu'à aujourd'hui. Donc, tout semeur de la semence doit s'attendre à connaître ses différentes expériences, comme cela est indiqué dans la parabole. Les serviteurs imparfaits d'aujourd'hui ne peuvent espérer mieux que ce qui a marqué les semailles du parfait serviteur quand il était sur la terre. La semence était la même dans chaque cas. La différence se trouvait dans l'état du sol sur lequel tombait la semence. Chez ceux qui ont entendu la parole et sont semblables aux grains tombés le long du chemin, la parole n'a absolument aucune entrée. Le cœur est comme un sentier où on est passé et repassé. Il n'y a pas même une impression superficielle, et Satan, par ses nombreux agents, ôte la parole. Le cas de ses auditeurs est celui d'une indifférence complète. Les auditeurs, assimilés à des terrains pierreux, sont ceux qui sont impressionnables, mais superficiels. Ils reçoivent la parole aussitôt avec joie, mais ils ne sont pas du tout sensibles à ce qu'elle implique réellement. Il a été dit, de vrais convertis, qu'ils ont reçu la parole accompagnée de grandes afflictions avec la joie de l'Esprit-Saint. 1 Thessaloniciens 1, verset 6. Cette affliction qui avait précédé leur joie résultait du fait qu'ils avaient été rendus conscients de leurs péchés, convaincus par l'action puissante de la parole. L'auditeur du terrain pierreux ne connaît pas ce temps d'affliction, parce qu'il n'est pas conscient de ses vrais besoins, pour s'établir dans une joie qui n'est que superficielle et qui disparaît, et lui avec elle, en présence de l'épreuve. Les auditeurs assimilés à un terrain plein d'épines sont ceux qui sont préoccupés. Le monde remplit leurs pensées. Sont-ils pauvres? Ils sont submergés par ses soucis. Sont-ils riches? Par ses richesses et les plaisirs qu'apportent les richesses. Ne sont-ils ni pauvres ni riches? Ils convoitent d'autres choses. Ils ont réussi à se sortir de la pauvreté et ils convoitent pour avoir encore plus de ces bonnes choses du monde qui semblent être maintenant à leur portée. Absorbés par le monde, la parole est étouffée. Les auditeurs semblables aux grains tombés dans la bonne terre sont ceux qui non seulement écoutent la parole, mais la reçoivent et portent du fruit. La terre a subi le travail de la charrue et de la herse. Ainsi a-t-elle été préparée. Cependant, même ainsi, toute bonne terre n'est pas également fertile. Il peut ne pas y avoir la même quantité de fruits, mais il y a du fruit. Dans tout cela, il y avait une grande instruction pour les disciples. Il y en a une également pour nous. Bientôt le Seigneur va les envoyer prêcher, et alors eux aussi deviendront semeurs. Il fallait qu'ils sachent que c'était la parole qu'ils devaient semer, et à quoi ils devaient s'attendre quand ils la sèmeraient. Alors, ils ne seraient pas trop affectés, quand une grande partie de la semence semée semblerait être perdue, ou quand, après quelques résultats, au bout d'un certain temps, on ne verrait plus rien. Ou même quand, du fruit ayant été produit, il n'y en aurait pas autant qu'ils l'avaient espéré. Si nous savons, d'un côté, quel est le but poursuivi, et de l'autre, ce à quoi il faut s'attendre, nous sommes grandement fortifiés et affermis dans notre service. Nous devons nous souvenir que cette parabole s'applique tout autant à la parole qui est semée dans le cœur des saints que dans le cœur des pécheurs. Aussi, méditons-la avec des cœurs très exercés quant à la manière dont nous-mêmes nous recevons la parole qu'il nous est donné d'entendre, et aussi quant à la manière dont d'autres recevront la parole que nous leur présenterons. Dans les versets 21 et 22, suit la courte parabole de la lampe, et puis au verset 23, une autre parole d'avertissement, afin que nous ayons des oreilles pour entendre. À première vue, passer de la semence qui a été semée dans le champ à la parabole de la lampe allumée dans une maison peut paraître bizarre et sans lien apparent. Mais si vraiment nous avons des oreilles pour entendre, nous verrons vite que, dans leur signification spirituelle, les deux paraboles vont bien ensemble et sont liées. Quand la parole de Dieu est reçue dans un cœur exercé et préparé, elle produit du fruit que Dieu apprécie, et aussi de la lumière, qui est vue et appréciée des hommes. Aucune lampe n'est allumée pour être cachée sous un boisseau ou sous un lit. Elle doit rayonner tout autour d'elle, à partir du pied de lampe. La deuxième partie du verset 22 est assez frappante. Et rien de caché n'arrive, si ce n'est afin de venir en évidence. Le travail de Dieu dans le cœur par sa parole a bien lieu secrètement, et le regard de Dieu discerne le fruit lorsqu'il commence à apparaître. Mais lorsque c'est le moment, cette chose secrète qui a eu lieu doit nécessairement être mise en lumière. Toute vraie conversion est comme une nouvelle lampe qui s'allume. Le boisseau peut représenter les affaires de la vie, et le lit, les aises et les plaisirs de la vie. On ne doit permettre ni à l'un ni à l'autre de cacher la lumière, comme on ne doit pas permettre aux soucis et aux richesses et aux autres choses d'étouffer la semence qui est semée. Avons-nous des oreilles pour entendre cela? Laissons-nous briller la lumière de notre petite lampe? Il n'y a rien de caché qui ne sera manifesté. Aussi est-il tout à fait certain que, si une lampe a été allumée, elle doit nécessairement briller. Si rien n'est manifesté, c'est parce qu'il n'y a rien à manifester. Cette parabole est suivie de l'avertissement qui concerne ce que nous entendons. Les voies de Dieu dans son gouvernement des hommes font partie de ce sujet. De la mesure dont nous mesurerons, il nous sera mesuré. Si vraiment nous entendons la parole de telle manière que nous nous en emparions, nous en aurons plus de profit. Sinon, nous commencerons à perdre même ce que nous avions. En Luc 8, verset 18, nous avons des déclarations semblables qui se rapportent à la manière dont nous entendons. Ici, elles se rapportent à ce que nous entendons. L'accent est mis sur « comment nous entendons » dans la parabole du semeur, mais « ce que nous entendons » est d'importance au moins égale. Bon nombre se sont vus enlever même ce qu'ils avaient en prêtant l'oreille à l'erreur. Ils ont entendu, et entendu très attentivement, mais, hélas, ce qu'ils ont entendu n'était pas la vérité et les a pervertis. Si, en passant par notre oreille, l'erreur est semée dans notre cœur, elle produira des fruits désastreux, et le gouvernement de Dieu le permettra et ne l'empêchera pas. Les versets 26 à 29 contiennent la parabole qui concerne le travail secret de Dieu. Un homme sème la semence et, quand la moisson est prête, il se remet au travail en y mettant la faucille pour la récolte. Mais quant à la croissance elle-même de la semence, depuis le début jusqu'à ce que le fruit soit produit, il ne peut rien faire. Pendant de nombreuses semaines, il dort et se lève, de nuit et de jour. Les opérations de la nature que Dieu a ordonnées font silencieusement le travail, bien que l'homme ne les comprenne pas. Le « sans qu'il sache comment » est vrai aujourd'hui. Les hommes ont poussé très loin leurs recherches, mais le vrai « comment » de ces opérations merveilleuses qui se déroulent dans le grand laboratoire de la nature de Dieu leur échappe toujours. Il en est de même dans ce que nous pouvons appeler l'atelier spirituel de Dieu, et c'est une bonne chose que nous nous en souvenions. Certains d'entre nous tiennent beaucoup à analyser et à décrire exactement ce que sont les opérations de l'esprit dans les âmes. Ces choses cachées exercent parfois une grande fascination sur notre esprit, et nous voulons saisir complètement tout ce qui se passe. C'est impossible. C'est notre heureux privilège de semer la semence et aussi, autant convenable, de mettre la faucille et de récolter. Ce que la parole opère dans le cœur des hommes est secrètement accompli par le Saint-Esprit. Son travail, bien sûr, est parfait. L'œuvre de l'homme porte toujours la marque de l'imperfection. S'il arrive qu'il nous soit permis d'être pour quelque chose dans l'œuvre de Dieu, nous apportons l'imperfection dans ce que nous faisons. C'est ce que nous montre la parabole suivante au verset 30 à 32. Le royaume de Dieu aujourd'hui existe d'une façon vitale et réelle dans l'âme de ceux qui, par la conversion, sont passés sous l'autorité et le contrôle de Dieu. Mais on peut aussi le considérer comme une chose plus extérieure qui se trouvera partout où des hommes font profession de reconnaître Dieu. Le premier est le royaume tel qu'il est établi par l'Esprit, l'autre le royaume tel qu'il est établi par les hommes. Ce dernier est devenu une chose grande et imposante sur la terre, étendant sa protection sur beaucoup d'oiseaux du ciel. Et ce que ces oiseaux représentent, nous venons de le voir au verset 4 et 15, des agents de Satan. Cette parabole qui termine la série est pleine d'avertissements pour les disciples, comme les autres ont été pleines d'instructions. Ils sont avec le Seigneur et formés avant d'être envoyés pour leur mission. Nous avons vu au moins cette chose, à savoir que, premièrement, actuellement, le travail du disciple est fondamentalement de semer. Deuxièmement, ce qui doit être semé, c'est la parole. Troisièmement, les résultats du travail du semeur doivent être classés en quatre catégories, et dans un cas seulement il y a du fruit, et encore, est-ce de façon variable. Quatrièmement, la parole produit de la lumière aussi bien que du fruit, et cette lumière doit être manifestée publiquement. Cinquièmement, le disciple lui-même est auditeur de la parole aussi bien que semeur de la parole, et à cet égard, il doit faire attention à ce qu'il entend. Sixièmement, le travail de la parole dans des âmes est le travail de Dieu et non le nôtre. Notre travail est de semer et de récolter. Septièmement, comme le travail de l'homme participe à ce travail actuel qui est d'étendre le royaume de Dieu, le mal y pénétrera. Le royaume, considéré comme l'ouvrage de l'homme, donnera quelque chose d'imposant et pourtant de corrompu. C'est l'avertissement solennel dont nous avons à faire notre profit. Il y a eu beaucoup d'autres paraboles exposées par le Seigneur et qui pourtant ne nous ont pas été rapportées. Celles qui ont été exposées et expliquées aux disciples étaient sans doute très importantes pour eux dans leurs circonstances particulières, mais pas de la même importance pour nous. Celles qui nous concernent directement sont rapportées en Matthieu 13. Avec le verset 34 se terminent les enseignements du Seigneur et, du verset 35 à la fin du chapitre 5, nous reprenons le récit de ces actes merveilleux. Les disciples avaient besoin d'observer attentivement ce qu'il faisait et sa façon d'agir, comme d'entendre les enseignements sortant de ses lèvres. Et nous aussi. La foule qui a écouté ce qu'il a dit, sans le comprendre, est alors renvoyée, et Jésus et ses disciples passent à l'autre rive. C'est le soir, et Jésus est à la poupe. Il dort sur un oreiller. Le lac est connu pour les tempêtes soudaines et violentes qui l'agitent, et l'une d'elles, d'une rare violence, se lève, menaçant de submerger la barque. Satan est le chef de l'autorité de l'air, et donc nous croyons que sa puissance se trouvait derrière les forces déchaînées de la nature. Immédiatement donc, les disciples sont placés devant une épreuve et un défi. Qui est cette personne qui dort à la poupe? Satan pouvait-il disposer des forces de la nature au point de faire couler une barque où reposait le Fils de Dieu? Mais le Fils de Dieu est vu dans son humanité, et il dort. Eh bien, quelle importance, vu qu'il est le Fils de Dieu? L'action de l'adversaire soulevant la tempête pendant qu'il dort est vraiment un défi qu'il lance. Jusqu'alors, cependant, les disciples n'ont compris ces choses que d'une manière très obscure, et ce n'est même pas sûr. Par conséquent, ils sont remplis de crainte, car leurs ressources dans l'art de la navigation sont épuisées. Et il le réveille avec un cri d'incrédulité qui est un affront à sa bonté et à son amour, bien que témoignant de quelque foi dans sa puissance. Le Seigneur se lève immédiatement dans la majesté de sa puissance. Il reprend le vent, qui est l'instrument le plus direct de Satan. Il dit à la mer de faire silence et de se taire, et elle obéit. Comme un chien de chasse turbulent se couche humblement à la voix de son maître, ainsi la mer se couche à ses pieds. Il est le maître absolu de la situation. Ayant ainsi repris les forces de la nature et la puissance qui se cache derrière elle, Jésus se tourne vers ses disciples pour leur adresser de doux reproches. La foi à une vision spirituelle des choses, et jusque-là leurs yeux s'étaient à peine ouverts pour discerner qui il était. S'ils avaient tant soit peu saisi ce qu'était sa gloire personnelle, ils n'auraient pas été si craintifs. Ayant été les témoins du déploiement de sa puissance, ils sont encore craintifs, et ils se demandent encore quelle sorte d'homme il est. Un homme qui peut commander au vent et à la mer et les soumettre à sa volonté n'est évidemment pas un homme ordinaire. Mais qui est-il? Voilà la question. Aucun disciple ne peut s'avancer pour servir tant qu'il n'a pas répondu à cette question une fois pour toutes dans son âme. Voilà pourquoi, avant de les envoyer, Jésus doit présenter d'autres témoignages de sa puissance et de sa grâce devant leurs yeux, comme cela nous est rapporté au chapitre 5. Nous aussi, de nos jours, nous devons être pleinement assurés de savoir qui il est avant d'essayer de le servir. Cette question, qui donc est celui-ci, est une question qui vraiment requiert notre attention. Tant que nous ne pourrons pas y répondre comme il convient et de façon très claire, il faut que nous nous tenions tranquilles.